Bonjour à tous et à toutes. Sous le titre « Les influences de mai 1968 sur la société actuelle », j'aimerais commencer par quelques paroles introductives au sujet. Le mouvement de 1968 avec le rock, les drogues, le mysticisme et la perversion sexuelle était une révolution culturelle qui a détruit la société occidentale, auparavant imprégnée par le christianisme. Ce mouvement a causé un chaos indicible et une catastrophe épouvantable. Chaque jour, on compte de nouvelles victimes. Bilan des horreurs, d'innombrables mariages et familles détruits. Des personnes solitaires, des existences désorganisées, enlisées dans la dépression et l'absurdité, des problèmes de drogue et d'alcool, des millions d'êtres humains tués dans le ventre maternel. Nous posons la question. Qui a été derrière cette évolution? Qui continue aujourd'hui ce travail? Comment pouvons-nous échapper à cette influence? Cette dernière question, nous allons y répondre particulièrement dans la deuxième partie de l'exposé. Nous commençons donc par la partie sombre qui montre donc ce que c'est ce mouvement de 68. Et pour cela, il nous faut un retour sur les racines du néo-marxisme. J'utilise ici un terme pas évident pour tout le monde, et d'ailleurs un terme qui aujourd'hui n'est plus tellement utilisé pour ce qui est derrière ce mouvement de 68 et ceux qui continuent à travailler dans ce domaine. Mais c'est un terme qui aide à comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, comme le terme néo-marxisme l'indique déjà, il faut retourner tout d'abord vers Karl Marx, 1818 à 1883. Son grand-père était un rabbin. Son père est devenu chrétien nominel. Lorsque Karl a dû écrire sa dissertation de fin de scolarité. Il a intitulé son texte par « Union du fidèle au Christ ». Donc, une explication, un commentaire sur Jean 15, 1 à 14. Et on pourrait vraiment penser un croyant né de nouveau. Mais on voit un changement fondamental pendant ses études qui ont suivi le gymnase. Il commence à gaspiller de grosses sommes d'argent en distraction. Il a des forts conflits avec l'autorité des parents, ce qu'on voit par ses lettres aux parents. Et là, il commence à écrire des poèmes sombres. Même, on pourrait dire, satanique. Il est même devenu auteur d'une pièce de théâtre. Ce n'est pas tellement connu, n'est-ce pas? Karl Marx, auteur de théâtre, de pièce de théâtre. Oulanem. Et là, on trouve une personne très sombre qui exprime la prière d'un désespéré en disant « Je veux me venger sur celui qui règne au-dessus de nous. » Également, dans Oulanem, scène 2, on trouve ce texte excessivement sombre. « Mais toi, l'humanité personnifiée, mes bras t'écrasent et t'en serrent avec force. Pour nous deux, l'abîme s'ouvre béant dans les ténèbres. Tu vas y sombrer. Et je t'y suivrai en riant, te susurrons, descends, viens avec moi, camarade. En plus, lorsqu'on considère cette image de Karl Marx, aujourd'hui, pratiquement personne pourrait savoir l'arrière-plan de son style chevelu barbu, qui était typique à l'époque pour les satanistes du 19e siècle. Et voilà ce qui confirme sa vie délabrée et typique pour des satanistes. Voilà le suicide de deux filles et d'un gendre, et en plus, trois enfants de lui meurent de malnutrition et d'incurie, mais lui, il travaillait sur ses intérêts, le marxisme. Et voilà l'alcoolisme chez lui, et voilà, il meurt en désespéré. Dans une lettre à son ami Engels, il écrit « Oh, que la vie est donc vaine et vide !» En 1867, il a écrit son livre important, fondamentalement important, « Le Capital », qui devait être d'ailleurs dédié à Darwin, parce qu'il avait compris « Darwin, c'est vraiment mon ami !» Parce que sa théorie du fort qui peut avancer en détruisant le plus faible. C'est le fondement de la théorie de la lutte des classes. On voit chez Karl Marx donc une révolte contre l'autorité et dans son enseignement. Un reniement de Dieu et de son autorité. Et aussi un reniement du droit au bien personnel. N'est-ce pas? C'est absolument contre la parole de Dieu, car la parole de Dieu, déjà dans le décalogue, dans les 10 commandements, protège le droit au bien personnel. Tu ne voleras point. Cela est donc une protection des biens personnels. Il fait dans son enseignement une attaque terrible du mariage et de la famille, en expliquant, à l'époque où c'était inimaginable, les femmes doivent avoir un emploi salarié. Pourquoi? Pour être libérées de la maison et de la famille et de l'autorité de l'homme. Et son rêve était le paradis communiste final, où l'homme peut faire et laisser ce qui lui plaît. Et pour ça, il a établi donc une idée du déroulement de l'histoire. Et il a cru que c'est une loi derrière l'histoire qui exactement déroule de cette façon, tout au début. Il a dit, il y avait la société tribale, ou société primitive. Ou on pourrait aussi dire le communisme primitif, car personne ne disait « cela appartient à moi ». Il croyait que c'était une société de matriarcat, où les femmes régnaient, non pas les hommes. Et c'était une société, croyait-il, avec une liberté sexuelle, où personne... Aucun homme disait « cette femme appartient à moi ». Il a dit « c'était la chute lorsque le premier homme a dit « cette femme appartient à moi ». Ça c'était la chute après le paradis. Et on voit déjà là, donc lui issu d'une famille où les influences du judaïsme et du christianisme étaient mélangées ensemble. Il tire bien des idées de la parole pour les pervertir totalement. Alors, par cette chute Il dit, voilà l'origine de la société esclavagiste où des hommes ont commencé à régner. Donc, une société avec deux classes. La classe des hommes qui règnent sur les autres. Mais, par une évolution, je vais encore expliquer, cette société esclavagiste a été mise de côté par la société féodale. Mais là, on a de nouveau deux classes, une classe qui règne sur l'autre, et là, il fallait aussi une révolution pour recevoir finalement la société capitaliste, où les riches règnent sur les pauvres, où ceux qui possèdent des usines règnent sur le prolétariat, ceux qui doivent travailler pour très peu d'argent dans les usines. Mais il avait l'idée, donc là, il faut que le prolétariat se venge et se lève contre les riches pour détruire cette société de son époque, 19e siècle. Et voilà, il a cru, après la victoire sur le capitalisme, suivent inévitablement d'abord une société du socialisme, où il y a encore des États qui doivent diriger, mais finalement, ces sociétés socialistes vont changer en le communisme final, où il n'y aura plus de différence de classe, où on aura de nouveau le paradis, où tout le monde est ensemble sur le même niveau. Personne ne dit « cela appartient à moi » et aussi il y aura de nouveau cette sexualité libre, comme au début. Alors, c'était important dans sa pensée de dire « il y a une thèse et une antithèse ». Voilà d'abord les hommes après la chute, les hommes qui ont régné sur les esclaves. Mais les esclaves sont l'antithèse qui va contre cette classe dominante pour produire une synthèse. Et la synthèse était donc la deuxième étape après la chute, comme j'ai déjà expliqué. Mais dans cette synthèse, voilà, de nouveau, s'établissent deux classes différentes, thèse, antithèse, et de nouveau, donc, une confrontation, une révolution qui produit une synthèse et amène à la prochaine étape. Et cela continue de cette façon jusque, comme j'ai expliqué, la société socialiste qui mènera plus tard à la société finale du paradis des derniers jours, le communisme. Alors, il était convaincu, c'est une loi ferme qui laisse expliquer toute l'histoire de cette façon, sans qu'on ait besoin de croire en un Dieu qui dirige l'histoire. Marx est mort, mais ses élèves ont continué. Voilà, 1917, pendant la Première Guerre mondiale, nous avons la révolution russe d'octobre et prise du pouvoir par les communistes. Et ensuite s'établit le communisme sous Lénine, ensuite Staline et aussi Mao. Voilà, au XXe siècle, des millions d'hommes sont tués pour pouvoir réaliser ces idées de Marx. Dès le début de l'Union soviétique qui s'est formée juste après la Première Guerre mondiale, voilà la tentative de destruction systématique du christianisme en Union soviétique. D'ailleurs, déjà depuis 1917, il y avait le travail obligatoire pour les hommes et les femmes. Vous comprenez pourquoi les femmes? Non pas pour avoir assez à manger, non, mais pour délivrer la femme de l'homme. 1920, voilà la légalisation de l'avortement pour libérer la femme de la tyrannie sexuelle et familiale. Mais là, des socialistes en Europe de l'Ouest, ils voient un problème. Avec ce développement en Union soviétique, et ils auraient cru, maintenant, en Europe de l'Ouest, la même chose. Donc, un chemin vers le socialisme et le communisme doit se réaliser, mais c'est différent. Voilà, Hitler et les nazis ont pris pouvoir. Ils ont pensé, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec le système historique de Karl Marx. Il n'est quand même pas tellement absolu dans ce qu'il a enseigné. On doit corriger Marx. Et cela a mené vers le néo-marxisme. C'est le marxisme corrigé par l'école de Francfort. Parce que, voilà, des grands penseurs en Allemagne ont fondé en 1923 cette école de Francfort qui était liée à l'université. Et là, ils ont créé une nouvelle interprétation de Marx, et cela en reliant Marx avec la psychologie de Freud. Voilà des personnes importantes comme Marx, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse et d'autres. Ils se sont basés fortement sur Sigmund Freud. D'ailleurs, on réalise ces noms juifs. N'est-ce pas, ceux qui ont un peu l'expérience des noms juifs en allemand réalisent tout de suite, voilà, des juifs. Mais des juifs, n'est-ce pas, sans la foi en Dieu et en la parole de Dieu. Voilà, Sigmund Freud, 1856 à 1939. C'était un médecin d'origine juive, mais sans foi en Dieu. Il s'est décrit comme, littéralement, un juif totalement athée, ou même un païen sans espoir. Même pour des juifs libéraux, c'est pas normal, c'est cette autodescription. La théorie de l'évolution a joué un rôle très fort dans la vie de Freud. Il y avait là une forte attraction dans sa jeunesse déjà. Et voilà, Freud influença la psychologie du XXe siècle comme aucun autre. Et dans sa psychologie, le sexisme jouait un rôle central. Le refoulement de l'instinct sexuel, il a enseigné, rend les hommes malades. Question. Qui veut devenir malade? Eh bien, conséquence à prendre. Il avait une profonde dépréciation du rationnel, une négation de la faute et de la responsabilité. Toujours la société. Et par exemple, le père, ce père néfaste, n'est-ce pas? C'est lui qui a causé le fait que je suis devenu un criminel. La faute, négation de la faute et de la responsabilité personnelle, un rejet avec ça sur l'environnement, les parents, la société en général. Et il était convaincu la religion ou la foi, c'est vraiment une maladie psychique. Sigmund Freud, il a écrit dans une lettre à son ami Jung, c'est G. Jung, mon très cher Jung, promettez-moi de ne jamais abandonner la théorie sur la sexualité. C'est la plus importante de toutes. Nous devons en faire un dogme, un bastion inviolable. Tiens, lui qui veut rien savoir de religion utilise un terme qui est qui est typique pour les religions. Dogme, n'est-ce pas? Alors là, il révèle que son travail, ce n'était pas un travail scientifique, mais idéologique. Wilhelm Reich, qui était un élève de Freud, a enseigné qu'il est important une suppression de la famille et un retour au paradis sexuel. Il a dit, les enfants doivent quitter très tôt la famille pour être élevés dans des communautés de jeunes. Ah, maintenant, comprends d'où viennent ces idées de mettre les enfants, n'est-ce pas, dans des institutions pour être élevés afin que le papa et la maman puissent travailler. Non parce qu'ils doivent, n'est-ce pas, il y a des cas où ils doivent. Non, pour bien élever l'enfant selon l'idéologie socialiste. Voilà. Herbert Marcuse, qui est en fait également à la racine de cette révolution sexuelle de 68, lui, il a pris la fuite aux USA devant les nazis. N'est-ce pas? On a vu l'école de Francfort, c'était juste avant que les nazis ont pris le pouvoir. Il a dû prendre la fuite. Et là, il a continué à développer ses idées. Et il était convaincu que l'homme doit être libéré de toute contrainte. Et son objectif était une société du plaisir totalement érotisée. Vous voyez, ses idées, à une époque où la société était encore fortement formée et influencé par le christianisme. Mais là, les idées de 68, ils sont anticipées. Donc, je vous présente là quelques pères de ce mouvement. N'est-ce pas? C'est un choix. Je pourrais encore prendre bien d'autres noms, mais il faut, pour montrer un développement historique, il faut quelques exemples pour pouvoir donc présenter la grande ligne. Il a enseigné, Herbert Marcuse, les vrais révolutionnaires, ce ne sont pas ceux qui travaillent dans les usines, le prolétariat, comme Karl Marx avait cru, mais pour lui, c'était plutôt les groupes marginaux de la société. Ce sont les personnes desquels nous avons besoin pour la révolution. Plus tard, on a parlé des hippies, n'est-ce pas? C'est exactement le type qu'il a envisagé. Donc, il était aussi convaincu des mouvements de libération du troisième monde. C'est là où on a les vrais révolutionnaires. Ce n'est pas le prolétariat. Et les féministes. Les féministes font partie de notre système. Herbert Marcuse était un grand modèle pour la jeunesse des années 68. Et là, il faut encore mentionner Alfred Kinsey, qui a écrit ce fameux Kinsey Report en 1948. Et là, il voulait expliquer à la généralité, vous voyez, d'avoir des idées perverses et même de pratiquer des idées perverses dans la sexualité, ce n'est pas quelque chose qui est étrange. Parce que, il voulait dire à la société à son époque, c'est très répandu, seulement on n'en parle pas. Et par son Kinsey Report, il a essayé de prouver cela. Mais aujourd'hui, on peut bien le critiquer. Il a particulièrement interviewé des personnes qui étaient à la prison, des personnes vraiment des groupes marginaux de la société, et il les a donc présentés comme la moyenne. Mais beaucoup de personnes ont dit, ah bon, quand j'ai de telles idées aberrantes, c'est quand même pas tellement à côté. Parce que Keynes, il nous dit, c'est assez normal dans la société. Et cela a donc un effet énorme. Mais il n'y avait pas seulement des pères de ce mouvement 68. Voilà une mère, Simone de Beauvoir. C'est une mère de la révolution féministe et également de la révolution sexuelle. Elle a vécu dans un ménage à Troyes avec Jean-Paul Sartre, bien connu, n'est-ce pas ? Ce philosophe de l'absurde. Et elle était contre le mariage. Et elle était absolument pour l'homosexualité. Vous voyez, encore à une époque où, par la loi, c'était défendu. Par exemple, en Suisse, elle était pour l'avortement. Donc, où l'avortement était encore vraiment ouvertement contre la loi, mais là, elle a reconnu publiquement avoir avorté. Et par son exemple, elle a influencé bien des femmes dans la société. Et voilà, le cri de guerre était les 3K. Bon, ça marche en allemand, n'est-ce pas ? Kinder, Küche, Kirche. Ça veut dire enfant, cuisine, église. Voilà les 3 ennemis du mouvement. Enfant, cuisine, église. Un autre père, Hermann Hesse. N'est-ce pas ? J'aurais aussi pu prendre des personnes de langue française, mais ça vous connaissez mieux que moi. Et je suis plus à la maison dans ce qui est de l'angle allemande. Hermann Hesse est issu d'une famille chrétienne. Les parents étaient d'ailleurs missionnaires en Inde. Lui n'était jamais en Inde. Les parents sont retournés de la mission, mais dans la maison des parents, il y avait une grande bibliothèque et il y avait bien des livres sur l'Inde et sur la culture et les religions en Inde. Et Hermann s'est beaucoup intéressé, non pas pour le christianisme, mais pour l'hindouisme, le bouddhisme. Dès son enfance, lorsqu'il était petit enfant, il avait énormément de conflits avec les parents. C'était un enfant excessivement difficile. Et finalement, la mère n'était plus capable de l'éduquer. C'était vraiment terrible. Mais aussi plus tard, lorsqu'il est devenu adulte, donc il avait bien des conflits avec les... il avait bien une vie chaotique avec des femmes, les drogues et l'alcool. Il a écrit un livre, Siddhartha, où il idéalise le bouddhisme et l'hindouisme. Et dans un autre livre, Le loup des steppes, n'est-ce pas, c'était un livre qui était aimé par Timothy Leary, qui, aux États-Unis, dans les années 60, a dit à ses étudiants, il faut essayer les drogues. Et parce que ça nous ouvre donc un monde qui était inaccessible pour cette société du passé. Et cela a amené à la révolution de 68. Et en fait, ce n'était pas une révolution. Mais au moins, on pourrait même multiplier encore les aspects, mais au moins 5 révolutions. 1. Une révolution sexuelle. Révolution féministe, révolution religieuse, une révolution de la drogue et une révolution musicale. Et voilà maintenant la révolution des années 60, ou plus précisément 68. Voilà, il y avait dans la société, et tout particulièrement parmi la jeunesse, une déception générale face aux conséquences des évolutions scientifiques. On se dit, on croyait toujours, la société va s'évoluer vers le meilleur. Mais voilà ce que la science a apporté. Deux guerres mondiales. Déjà dans la Première Guerre mondiale, avec des armes chimiques, parce qu'il y avait la science, les sciences naturelles qui ont aidé à produire ces armes. Deuxième guerre mondiale, pour la première fois, des bombes atomiques étaient utilisées. Vous voyez à quoi ça amène. Ensuite, c'était la période de la guerre froide, la guerre de Vietnam. Et c'était une époque où on se rendait de plus en plus compte du problème de pollution à cause des progrès dans la science. Eh bien, en général, on a trouvé dans ces années, parmi une grande majorité des jeunes, une déception face au rationalisme. Et pour ça, comme contre-mouvement, une fuite vers un monde irrationnel. Et exactement à cette époque-là, une espèce de musique est apparue, la musique rock, qui aidait à fuir le monde du rationalisme pour aller dans un monde irrationnel. Et là, on a fait la découverte, on doit dire la redécouverte des drogues. Ensuite, des religions orientales, où on peut faire les mêmes expériences qu'avec la drogue. Et l'occultisme est devenu tout d'un coup intéressant pour une masse. Voilà, l'ésotérisme et le nouvel âge. Et ce qui est intéressant, au même moment, voilà l'origine du mouvement charismatique dans les années 60. Où la jeunesse, en général, était ouverte pour faire la fuite vers un monde irrationnel, où on met de côté le rationalisme, eh bien, parmi les chrétiens, le mouvement charismatique, avec des aspects parallèles. Ensuite, ce qui était important pour la jeunesse, une rupture consciente avec les valeurs traditionnelles. On a dit perversion sexuelle. Ce n'est pas perversion. C'est normal. Il y a une diversité de possibilités dans ce domaine. Voilà, l'homosexualité, c'est une possibilité. Et là, on a dit le mariage. C'est une institution de hier. Donc, on a demandé la dissolution, même la destruction du mariage et de la famille, qui est de toute façon l'institution pour l'homme qui peut dominer comme père. Voilà, c'est une période de la haine du père. Et voilà, on a demandé l'avortement comme un droit pour la femme. Et là, l'idéal est devenu dans le domaine de l'éducation, une éducation permissive. Les enfants savent soi-même ce qui est bon et mauvais. Donc, laissez les enfants se développer, d'avoir leur propre volonté. Ce qui est bien sûr lié à cette haine déjà chez Marx de l'autorité. Vous voyez ? Voilà, une époque qu'on peut caractériser comme une époque de la recherche de l'extase, de la transe et de l'ivresse. Il y avait une énorme affluence à l'époque pour des grandes manifestations de musique rock. Il a fallu louer tout d'un coup des stades pour les concerts. Ça, on ne connaissait pas auparavant. Et voilà le festival pop de Monterey 67 ou de Woodstock 69. C'était des lieux de rencontre d'un mouvement de la jeunesse qui protestait contre la société et ses valeurs. Et là, on a fait une propagande pour les drogues, les religions orientales et l'occultisme. Oui, c'était à l'époque, et les jeunes qui se laissaient prendre par ce mouvement, ils croyaient, avec ça, nous allons bâtir un nouveau monde de liberté, de joie. 50 ans plus tard, 2018, aujourd'hui, on voit que le problème de drogue est depuis insoluble. 50% environ des mariages se terminent en divorce. Voilà les familles recomposées comme quelque chose de normal aujourd'hui. Et cela lié à la déstabilisation des enfants. Voyez cet accroissement de la violence et la propagation du sentiment d'absurdité chez plusieurs. On peut dire d'ailleurs, depuis 1968, on a fait exterminer de plus d'un milliard d'enfants par l'avortement. Mondialement. On n'a jamais vu une telle chose. Et on voit aujourd'hui ce dramatique accroissement du nombre des bénéficiaires de l'allocation invalidité. N'est-ce pas? On est reconnaissant pour ces possibilités, mais voyez les raisons pour une grande partie de cet accroissement. À cause du mode de vie moderne, lié à des dépressions. Voilà le problème du syndrome post-avortement, sur lequel notre société aujourd'hui ne veut pas parler publiquement. Le problème du sida est encore plus grave que le sida, hépatite B et C. On n'en parle pas trop. Et voilà cette propagation du sentiment d'absurdité, comme je viens déjà de le mentionner, et cette absence de valeur chez les jeunes. Alors, on vient de réaliser que la musique jouait un rôle fondamental pour propager ces idées des néo-marxistes de l'école de Francfort. Et cela est lié à la naissance d'une nouvelle espèce de musique. Voilà, il y avait autrefois déjà le rhythm and blues des Noirs en Afrique. Mais en général, les Blancs en Amérique et en Europe, ils n'aimaient pas cette musique, avec ce rythme monotone. Ils préféraient, par exemple, country music. Mais en 1953, par la fusion du rhythm and blues des Noirs américains et du country and western des Blancs, est née une musique jusque-là inconnue, le rock and roll. Donc l'Amérique, en 1953, a réuni des éléments musicaux européens, country music, et africains. Et africains, tout particulièrement le rythme, car des Noirs qui ont été amenés de l'Afrique en Amérique ont emporté leur musique. Issu du culte animiste, où par exemple le rythme monotone, où les quarts sont absolument stables, toujours la même chose. Cela amène facilement à l'extase, dans tous les grades, de presque rien jusqu'à totalement. Vous voyez, c'est comme avec l'alcool. Depuis quel moment on est enivré? Combien de verres? On ne peut pas dire, n'est-ce pas? Il y a tous les stades entre deux. Et voilà, cet homme qui a relié ces deux styles a créé une nouvelle musique, qu'on a appelée tout de suite rock and roll. D'ailleurs, c'est un terme des ghettos des Noirs en Amérique qui veut dire fornication. Pourquoi on a pris ce terme? Parce que tout de suite, on a réalisé qu'il y a là quelque chose qui entraîne dans cette direction. C'était Bill Haley qui a composé Rock Around the Clock dans le film Grain de violence. Et tout de suite, 20 millions de ventes, ce qui était inouï à l'époque. Aujourd'hui, c'est rien du tout, n'est-ce pas? Et cela est devenu l'hymne de la jeunesse rebelle des années 50. C'était encore avant 68, c'était une minorité. Mais voilà un survol de l'histoire de la musique depuis 1953 jusqu'à aujourd'hui. Un nombre incalculable des styles s'est développé depuis le rock'n'roll. Comme hard rock, heavy metal, soft rock, punk, soul, jazz rock, baroque rock, funk, techno, house, philly, reggae, psychedelic rock, beat, folk, surf, disco, et aussi Christian worship music, etc., etc., etc. Même chaque groupe de musique a développé son propre style, mais ce qui est typique, c'est le rythme qui n'est plus un rythme respiratoire, où on traite l'écart, non pas comme quelque chose absolument fixe, mais de cette façon, comme on respire et comme on parle, n'est-ce pas? Ce matin, j'ai bien fait attention. Comment est-ce qu'on chante? Et j'étais émerveillé. C'était comme si on avait un chef d'orchestre, n'est-ce pas? Qui montre ses nuances, où il faut un peu agrandir la longueur des quarts pour reprendre à tempo. C'était sans chef d'orchestre, correctement, comme on respire naturellement. Si on voudrait chanter une fois un même chant, même cantique de ce matin, mais avec un rythme, vous allez voir, mais c'est impossible. Impossible. Et on perd les sentiments profonds. N'est-ce pas par le rythme respiratoire qu'on connaît depuis la musique classique et des hymnes et cantiques des églises chrétiennes du passé, là, c'est un rythme qui encourage la raison à réfléchir, à méditer sur le contenu. Mais une musique avec un rythme moteur, toujours la même chose, ça fait exactement le contraire. Ça met de côté donc la pensée contrôlée et ça crée aussi des sentiments, mais des sentiments superficiels, non pas profonds. Et voilà. Dans les années 54 à 59, c'est la période de Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard et Jerry Lee, qui ont bâti une culture musicale sur un nouveau mode de vie chargé d'agressivité et d'émotion pour une jeunesse qui se détournait du monde des adultes et se rebellait contre lui. 1960, les Beatles. 27 décembre 60, les Beatles se produisent pour la première fois dans une salle communale de la banlieue de Liverpool. Et quelques années plus tard, 64, 60% de tous les singles achetés aux États-Unis sont produits par les Beatles. Ils ont eu un succès énorme. Les entrées en scène des Beatles, tant à la télévision qu'en direct, provoquaient une hystérie collective jusqu'ici inconnue par mais les jeunes fans. Mais qu'est-ce qui était derrière? Aujourd'hui, n'est-ce pas, les jeunes, lorsqu'ils écoutent cette musique, ils pensent, mais impossible. Pourquoi on se laisse déranger par une telle musique? Mais nous, on a vécu ce qui était avant et ce qui est venu là. Là, je m'adresse aux jeunes. C'était incroyable ce qu'on a ressenti. Mais aujourd'hui, les émotions sont endurcies par un développement dans l'histoire musicale. Vous n'avez plus la sensibilité que nous avons eue. Et c'est pour ça que l'effet était, avec très peu, incroyable. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus pour avoir le même effet. C'est comme avec la drogue, il faut toujours de plus. 60 à 70, voilà l'époque d'une énorme croissance du marché de la musique, avec des groupes comme Genesis, Pink Floyd, Birds et Rolling Stones. Genesis, j'ai déjà mentionné, mais Janis Joplin et Jimi Hendrix comme individuels étaient importants. Et voilà le message qui était apporté par cette musique, était le message des néo-marxistes. 1. Amour libre. J'ai déjà expliqué, rock'n'roll, c'est un mot du ghetto pour fornication ou prostitution. Quelques exemples de l'époque. La chanteuse Grace Slick a dit, peu importe ce que disent les textes, toutes nos chansons signifient la même chose. Soyez libre en amour, libre dans le sexe. Le musicien rock John Dates a dit, le rock'n'roll, c'est 99% de sexe. Mais lui, il a dû savoir ça. C'était un spécialiste. Ian Dury pensait, tout ce dont mon corps a besoin, c'est de sexe et de drogue et de rock'n'roll. Deuxième message, abus de drogue. Le problème de la drogue depuis les années 60 a été déclenché pour l'essentiel par les scènes de rock. La musique rock, on peut appeler le plus grand dealer. Avec ce rythme venu des cultes animistes. Eric Clapton expliquait, un musicien rock sans drogue n'est qu'une moitié d'homme. Les Rolling Stones chantaient dans Sticky Fingers, s'il te plaît, sœur morphine, change mes cauchemars en rêve, douce cousine cocaïne, mets tes mains froides sur mon front. Et le psychologue Jean-Martin Büttner, dans le Tagesanzeiger, journal suisse-allemand, n'est-ce pas, a déjà écrit en octobre 86, non pas aujourd'hui, à l'époque, toute la scène musicale est rongée par les drogues dures. Troisième message, religion orientale, occultisme et même satanisme. Au printemps 68, les Beatles sont allés chez Maharishi Mahesh Yogi pour être initiés par lui à la méditation transcendantale. Et John Lennon, un membre du groupe, a expliqué « Nous ferons tout notre possible pour répandre la méditation transcendantale. » Et plus tard, Maharishi Mahesh Yogi est venu en Suisse pour s'installer sur le Seelisberg. C'est grâce à cela que Maharishi a pu venir en Suisse. Et en Europe, il gagna ainsi une terrible influence et des adhérents en très grand nombre. Dans leur chanson « Let it be », les Beatles vantaient la méditation hindoue à l'aide des mantras. Qui aurait pensé ça ? Lorsqu'on écoute ce chant, semble-t-il innocent, n'est-ce pas? Dans sa chanson « My Sweet Lord », George Harrison vénérait le dieu hindou Krishna. On retrouve des pensées hindoues dans les textes des chansons des groupes et musiciens suivants, Carlos Santana, John McLaughlin, Yes, Earth Wind and Fire, Nina Hagen et d'autres. N'est-ce pas? Je parle de groupes d'autrefois, mais ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Le guitariste à la tête du groupe Led Zeppelin, Jimmy Page, a dit « En réalité, un concert de rock n'est rien d'autre qu'un rituel magique. » Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a compris la force dans cette musique, que même beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Le compositeur de Meatloaf, Jim Steinman, a dit « Depuis toujours, j'ai été attiré par le surnaturel et je sais que le rock est le médium idéal pour cela. Quand j'arrive sur scène, je suis possédé. » un concerto pour piano et orchestre de Bach, c'est pas très utile pour avoir de tels effets. Et voilà, dans la chanson « Sympathy for the Devil », les Rolling Stones ont adoré le diable. Et vous savez, tout récemment, ils sont venus à Zurich après des décennies. Et ils ont rechanté ça à Zurich. C'est incroyable. Parce que, autrefois, pendant un concert, un jeune noir a été tué devant la scène. Et Mick Jagger, il a dit, entre deux, toujours quand on chante ça, quelque chose se passe, se fait, se produit. Et voilà des groupes imprégnés de satanisme dans les années bien passées. Black Sabbath, AC/DC, Mötley Crüe, Damon, Mass, Witchfinder, Venom, Kiss, Merciful Fate, Iron Maiden, Deep Purple, Rainbow, Eagles, Emerson, Lake and Palmer, Uriah Heep, Nazareth, etc. Mais ce n'est pas devenu mieux dans le passé récent. Et voilà, j'ai déjà dépassé 3 minutes. Je finis par la dernière remarque sur une quatrième pensée qui a été transmise, mais fondamentale pour le marxisme et le néo-marxisme, égoïsme, rébellion et violence. À l'époque, Janis Joplin, dans sa chanson « Get it while you can »,« Prends tant que tu peux », a exprimé l'égoïste, mentalité du prendre, qui est inséparable de la culture rock. D'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes ne parlent plus de musique rock. On parle de musique moderne. Alors, on peut toujours remplacer, quand je dis rock, musique moderne. Elle vivait résolument selon son principe. Vis intensément, aime violemment, meurt jeune. Elle est partie. Et Nina Hagen avait chanté « Je n'ai aucune envie d'accomplir mes devoirs, ni envers toi, ni envers moi. Je n'ai aucun devoir. » Et voilà, après la pause, nous allons considérer l'impact de l'Église dans une société post-68. Merci de l'attention.